Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5. Depuis quelques semaines, on fait un petit parcours, on peut rappeler ça une mini-série dans l'Épître aux Hébreux. Pas tous les chapitres, mais pas tout ce qui est dit, mais on aborde sous l'angle des avertissements qui sont donnés dans l'Épître aux Hébreux et qui sont au nombre de 5. Il y a 5 un peu blocs d'avertissements dans cette Épître aux Hébreux. Une épître qui s'adresse en premier lieu à des Juifs qui sont devenus chrétiens et qui sont certainement en proie à la souffrance et à la persécution et qui souffrent tellement peut-être qu'ils sont tentés de revenir un peu au rite du judaïsme. Et ils ont eu des premiers jours pleins d'ardeur. Hein, si vous regardez au chapitre 10 et au verset 32, il est dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposés aux spectacles, aux opprobres, aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent pour toujours. » Ça, c'est dans le premier temps. Mais quand la souffrance dure et quand elle perdure, eh bien, parfois, cette souffrance, elle a un peu raison de la détermination, elle a un peu raison de l'engagement. Et ces chrétiens sont tentés de se dire, mais c'est peut-être plus facile, au moins on sera accepté par notre communauté. Et certains ici connaissent ça peut-être, quand on vient d'un arrière-plan où l'évangile est rejeté, on peut avoir parfois tendance à revenir en arrière pour au moins baisser la pression. Et donc, ce que fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on l'a souligné plusieurs fois, c'est qu'il va exposer clairement la supériorité de Jésus-Christ sur toute chose. Parce qu'ils sont tentés de revenir à ceux, on a dit la dernière fois, qui n'étaient qu'une ombre au rituel, à ceux qui annonçaient Jésus-Christ. Il montre maintenant quelle est la supériorité de la réalité de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est supérieur aux anges, supérieur à Moïse, qui est supérieur à Josué, c'est ce qu'il dit, dont la sacrificature est supérieure à la sacrificature lévitique, qui est garant d'une meilleure alliance, dont l'alliance est basée sur de meilleures promesses. Et tout est fait dans cette épître pour montrer que Jésus-Christ est le meilleur. Et c'est pour ça qu'il dit, dans ce chapitre 12, il dit « Considérez Jésus-Christ ». Et il montre comment considérer Jésus-Christ. Mais au milieu de toute cette exposition de la perfection de Christ, l'auteur de l'Épître aux Hébreux distille quelques avertissements qu'on peut appeler avertissements solennels. C'est ce que nous essayons de voir depuis quelques semaines. Chapitre 2, on avait vu un avertissement concernant le risque de s'écarter, de se laisser partir à la dérive, et puis de le risque aussi de négliger son salut. Au chapitre 3, nous avions considéré aussi une mise en garde, au verset 12, où il était question d'avoir un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. On a un autre avertissement au chapitre 10, et puis encore un autre au chapitre 12, et puis celui que nous allons considérer en partie seulement aujourd'hui est au chapitre 5. L'auteur explique au début du chapitre, nous allons lire le chapitre 5, le début du chapitre, « En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes, chapitre 5, verset 1, pour les hommes, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit aussi offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Arrivé à ce point, l'auteur s'arrête. C'est comme s'il dit au lecteur, j'ai un problème là. Il parle du sacrifice parfait de Christ, de ce que Christ a fait, c'est qu'il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Il parle le fait d'être déclaré par Dieu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est évident que ça demande des explications, mais il ne les donne pas. Il s'arrête et puis c'est comme s'il dit « j'ai un problème à ce niveau ». Et il dit « le problème c'est vous, je ne peux pas continuer. Il faut que je règle quelque chose avant de continuer ». Et il ne continue qu'au chapitre 7, regardez chapitre 7 et au verset 1, il dit « en effet, ce Melchisédek », c'est là qu'il reprend la suite de son explication. Fin du verset 20, chapitre 6, il reprend que Jésus a été établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et puis il enchaîne au verset 6, ce Melchisédek était roi de Salem, et là il continue tout, il reprend son exposé sur la sacrificateur de Christ, sacrificature de Christ. Mais, le chapitre 5, verset 11, et la suite, constitue en gros son avertissement, un avertissement. Et c'est ça que nous voulons considérer. On va considérer juste les versets 11 jusqu'au verset 3 que nous allons lire, mais nous allons nous concentrer sur le verset 11 et le verset 14. Donc lisons ce qu'il dit. Chapitre 5, verset 11. Il dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Mais la nourriture solide est pour les hommes faite pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et il continuera après avec encore de l'avertissement. Mais nous voulons considérer ici une chose. L'auteur dit, j'ai beaucoup de choses à vous expliquer, mais j'ai un problème. Et le problème, c'est votre maturité spirituelle. Vous n'êtes pas mûr spirituellement. Alors c'est comme s'il dit, alors écoutez, avant de continuer, devenez mature spirituellement. Et c'est ça le titre de mon message ce matin, devenez, et c'est ça l'exhortation pour nous, devenez des chrétiens matures. Devenez des chrétiens matures. Alors premièrement, on va dire ici, nous sommes exhortés à devenir des chrétiens matures parce que la maturité spirituelle impacte notre compréhension des vérités de l'Évangile. Nous devons devenir chrétiens matures parce que La maturité spirituelle impacte ma compréhension, notre compréhension des vérités de l'Évangile. Regardez le verset 11 ici. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Premièrement, l'auteur parle de l'ampleur de l'Évangile. Il dit ici, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Et il ne peut pas juste dire, Jésus est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Là-dessus, il faut développer. Il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, on sent qu'il est conscient de la profondeur du message qu'il a à délivrer ici. Il dit qu'il est loin d'avoir épuisé le sujet, loin d'avoir dit tout ce qu'il y a à dire sur Jésus et sur le fait qu'il est le souverain sacrificateur par excellence. Ici, il ne parle pas simplement du fait de raconter ce que Jésus a fait. Il n'est pas dans un narratif sur ce que Jésus a fait, mais sur l'étendue de son ministère, sur l'impact qu'a sa sacrificature. Et il dit, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ne croyez pas qu'on a déjà fait le tour de la question. Parfois, on peut penser que parce qu'on a lu la Bible en une année, on a fait le tour de ce qu'il y a dans l'Écriture. Mais l'auteur dit, non, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Et souvenez-vous de l'apôtre Jean qui disait, dans Jean chapitre 21, concernant Jésus, il dit que si on racontait tout ce que Jésus a fait en détail, il dit que le monde ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrirait là-dessus. Ici. Et Jésus lui-même disait à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. L'évangile, ce n'est pas une toute petite affaire avec deux, trois formules, deux, trois concepts. C'est quelque chose qui est extrêmement vaste. Parce que Dieu est infini. Et son œuvre aussi est infinie. Et il y a toujours, 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 jusqu'à la mort pour ceux qui sont en Christ, des choses à apprendre, à savoir, à connaître sur Christ. L'évangile est vaste. Dieu est vaste. L'œuvre de Dieu n'est pas peu de choses. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui peut s'appréhender, voilà, en deux, trois réunions ou en assistant à des réunions de manière occasionnelle ici. L'évangile a besoin d'être expliqué, il a besoin d'être étayé, il a besoin d'être démontré, il a besoin d'être approfondi, il a besoin d'être assimilé. Nous avons beaucoup de choses, dit l'auteur, à dire là-dessus. Je n'ai pas encore fini. Mais il ajoute aussi qu'il y a une difficulté. Transmettre et expliquer ces vérités qu'il doit annoncer. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses, dit-il, difficiles à expliquer. Alors, le problème ici, c'est pas... Parfois, le problème peut être la difficulté de la chose à expliquer. Une chose peut être difficile à expliquer. L'apôtre Pierre dit que l'apôtre Paul parle de choses difficiles dans ses lettres, dans 2 Pierre. Il dit cela comme ça. Donc, on accuse parfois volontiers la difficulté de la doctrine. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des doctrines qui sont difficiles à comprendre. Il faut vraiment s'asseoir pour chercher même. Parfois, on a du mal à les saisir. On accuse parfois volontiers le prédicateur et son incapacité à expliquer clairement les choses et à transmettre clairement les choses. Et parfois, il l'est aussi. Pas très clair, un peu confus. Mais on a souvent du mal à se mettre en cause soi-même en tant qu'auditeur. Et c'est cette troisième voie, si j'ose dire, que l'auteur souligne ici. Il dit, nous avons des choses difficile à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Autrement, il dit que le problème, ça n'est pas la difficulté de la doctrine, le problème, ça n'est pas simplement le prédicateur, le problème, c'est aussi nous avec la manière avec laquelle nous nous écoutons. Il dit, vous êtes devenus lents à comprendre. On a du mal à se mettre ainsi et à croire souvent que c'est nous, en tant qu'auditeurs, nous avons une part grande dans la difficulté de compréhension. Vous savez que plusieurs d'entre vous, peut-être ne savent pas, mais je suis enseignant aussi au lycée. Et souvent, on interroge les élèves. Une fois, j'ai envoyé un élève au tableau et puis je lui demande de faire quelque chose. Bon, c'est toujours simple ce qu'on demande, hein. Il fallait écrire des choses, il y avait un résultat déjà écrit, il faut juste prendre le résultat qui est là, le réécrire en dessous. Et il ne comprenait pas cela. C'était cet écrit-là, tu le recopies ici. Et j'ai montré ma surprise et il me dit, je ne comprends pas parce que vous expliquez mal. Bon, je ne suis pas tombé à la renverse, mais j'ai ravalé un peu mon orgueil quand même. Et puis il ajoute, mais ne le prenez pas mal. Bon, j'ai dit, on verra. Hein. Donc il a redoublé son BTS et en le redoublant, il ne l'a pas eu. Je ne l'ai pas retrouvé après pour dire, bon, vous avez changé de prof, vous n'avez toujours pas compris, avec un prof qui expliquait mieux quand même. Hein. Je ne l'ai pas fait. Mais bon, on a ça souvent. Hein. Je dis, moi, je peux aller m'asseoir dans une salle où il y a plein de mathématiciens de très haut niveau et puis qui s'expliquent des choses entre eux. Et puis je peux dire, moi, hein, ben, je comprends rien parce qu'ils ne savent pas expliquer. Non, le problème est que je n'ai pas la capacité de comprendre ce qu'ils disent. D'accord ? Ils expliquent très clairement, mais ce qu'ils expliquent n'est pas à mon niveau. Le problème, il est chez moi. Et c'est ça que l'auteur dit ici. Il dit, j'ai des choses qui sont difficiles, non pas parce que ces choses intrinsèquement sont difficiles, elles peuvent l'être, non pas parce que je ne sais pas l'expliquer, il va l'expliquer très clairement par la suite, mais il dit, mais parce que vous avez un problème au niveau de votre écoute, au niveau de votre audition des choses. Vous êtes devenu, dit-il, lent, indolent, mou, sans énergie, paresseux, ennuyeux, apathique. C'est le sens que contient ce mot « lent » ici. Il dit, et on retrouve ce mot-là en Hébreu 6:12 quand il dit « ne vous relâche, en sorte que vous ne vous relâchiez point ». Ils sont relâchés au niveau de l'écoute. Hein, vous avez déjà vu, on tire la chaise, on est assis au fond, on met les mains comme ça, et on regarde au fond de la classe. Et il est évident qu'on dit parfois à mes élèves, asseyez-vous dans une position qui me laisse supposer au moins que vous êtes en train d'écouter. Parce que vraiment, eh bien ici, le théâtre dit, voilà, on est mou, on est relâché. Et puis, il dit, vous êtes lent à comprendre. Et le sens de comprendre ici, c'est écouter, c'est aussi entendre, c'est percevoir avec l'oreille. Je vous lis dans la traduction d'Arby, il dit, puisque vous êtes devenus paresseux, et c'est le sens du mot lent aussi, paresseux à écouter. Il dit, le problème de la difficulté de la transmission de cette vérité, c'est votre paresse à écouter. Voilà donc le reproche que fait l'auteur à ses auditeurs. Votre attitude actuelle de paresse face à la parole de Dieu, votre mollesse, votre relâchement dans la mise en pratique de cette parole vous a rendu de plus en plus mou et sans énergie pour écouter. Et de ce fait, toute nouvelle vérité devient difficile à expliquer. C'est ce qu'il est en train de dire, exactement. Vous êtes devenu tellement paresseux à écouter que tout ce qu'on peut vous apporter maintenant, c'est compliqué. Il faut trouver comment. Et quand vous arrivez et que vous êtes en BTS, que vous avez des élèves qui ne savent pas faire des additions, c'est très, 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 très compliqué. Vous pouvez chercher tous les moyens, c'est compliqué. C'est compliqué. On prend la calculatrice pour faire 10 multiplié par 15 et on se trompe. D'accord. Donc c'est vrai, c'est compliqué. D'accord. Donc il dit, et spirituellement, on peut être dans la même situation. On est devenu tellement paresseux que toute vérité biblique, un peu plus grande, ça devient compliqué pour nous. Et donc pour percevoir de manière compréhensibles et profitables les vérités, il faut une attitude diligente et non une attitude de paresse. C'est ce que l'auteur souligne ici. La maturité spirituelle impacte ma compréhension des vérités de l'Évangile. Et notez qu'il dit que vous êtes devenus. Hein. Ils n'ont pas toujours été comme cela. Il ne dit pas qu'ils sont restés au niveau bas spirituellement. Il dit qu'ils sont devenus paresseux. Au début, ils ne l'étaient pas. Mais à force, voilà, écoutez, on écoute passivement. Et puis, on devient paresseux. Ça, c'est la première chose qu'il souligne et pour laquelle il dit qu'il faut devenir des chrétiens matures. Deuxième chose, il faut devenir des chrétiens matures parce que l'exposition, même prolongée à l'Évangile, est inefficace si on est immature. L'exposition, même prolongée à l'Évangile, est inefficace si on est immature. Regardez au verset 12, il dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. » Alors le « en effet » ici, « vous en effet » indique que l'auteur fournit une justification au reproche qu'il a fait au verset 11. Quand il dit, voilà, vous êtes devenus lents à comprendre, comment est-ce qu'il le voit? Il dit, ben voilà, je le vois dans le fait que votre exposition depuis longtemps à l'Évangile aurait dû vous amener à ce niveau-là et vous en êtes venus à un niveau beaucoup plus inférieur, au niveau d'un débutant. Il y a eu, dit-il, une régression spirituelle. L'exposition prolongée à l'Évangile n'a pas été efficace parce qu'au lieu de vous faire progresser, vous avez régressé. C'est ce qu'il dit. Hein. Il dit, vous en êtes devenu. Ah, il ne dit pas que vous êtes resté au niveau de bébé spirituel. Parce qu'il dit, vous avez besoin de lait. Donc, il parle ici, il prend ici l'image du nourrisson. Vous avez besoin de lait. Il ne dit pas que vous êtes resté à ce niveau. Il dit que vous en êtes venu à avoir besoin de lait. Quand on lit tout le chapitre, on voit que c'était des gens qui avaient pris soin des autres. Au chapitre 6, il dit « Dieu n'est pas infidèle pour oublier tout le service que vous avez rendu au saints. » On l'a eu au chapitre 10, verset 32, on a vu tout ce qu'ils ont fait. Mais là, ils sont revenus à un besoin élémentaire parce qu'ils n'ont pas profité de ce qui leur avait été annoncé dans l'Évangile. « Vous avez, dit-il, encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. » L'ABCD. Hein, vous avez besoin, c'est comme quelqu'un qui savait lire, et puis subitement, il faut le ramener, puis lui apprendre, ça c'est A, ça c'est B, B à bas, etc. Ça paraît aberrant, mais c'est ce qu'il est en train de dire ici, hein. Et puis, subitement, maintenant, bon, parce que par paresse, à cause de sa paresse, eh bien, il faut tout lui moudre, il faut lui donner du liquide, du lait, etc. Il dit ça, c'est pas un développement normal. Vous avez régressé. Vous en êtes venu, dit-il, à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. C'est-à-dire, ce qui constitue maintenant votre besoin, c'est de la nourriture liquide, c'est du lait. Votre état nécessite un changement d'alimentation, tellement vous avez régressé. Vous êtes malade et vous souffrez d'une régression spirituelle. Dans la vie chrétienne, on progresse ou on régresse. Il n'y a pas de temps où on stagne. Donc quand on ne fait plus ce qu'il faut, quand on ne suit plus l'Évangile, quand on n'a plus de communion, plus de vie avec le Seigneur. On ne dit pas, je suis arrivé à ce niveau-là, je reste à ce niveau-là. Pas du tout. On régresse. On régresse dans la compréhension de Christ si on ne met pas en pratique, au fur et à mesure, tout ce que l'on apprend de Christ. On régresse dans la compréhension de Christ si on ne met pas en pratique tout ce que l'on apprend de Christ. Et l'auteur dit ici, vous en effet qui depuis longtemps, c'est-à-dire il fait rentrer ici une notion de temps qui exprime qu'ils ont été exposés pendant longtemps à la parole. Je vous lis le verset dans la traduction Parole de vie, il dit, vous aviez le temps de devenir des maîtres. Dans la version Semeur, il dit, en effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Et dans la version Bible en français courant, il dit, il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres. Autrement dit, il y a eu un temps d'exposition qui aurait dû amener à un certain niveau spirituel. Mais il dit, mais force est de constater que c'est l'inverse qui s'est produit. Ce temps passé a amené à une régression spirituelle. Ce n'est pas normal d'avoir pas de leur dire. Le temps n'a pas été mis à profit. Et c'est une manifestation et une cause d'immaturité spirituelle. Vous êtes redevenus des bébés spirituels qui ont besoin de lait, de nourriture liquide, facile à avaler. Et donc la maturité spirituelle, l'avancement dans la connaissance de Dieu, vous voyez, chers frères et sœurs, ne se mesure pas simplement au temps qu'on a passé, au temps de conversion. Parfois, il y a des gens qui disent, moi, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que je connais le Seigneur. C'est très bien, mais ça ne veut rien dire si on en est encore à avoir besoin de lait. C'est 20 ans qui n'ont pas servi. C'est ce que l'auteur dit ici. C'est bien d'avoir du temps, de connaître le Seigneur depuis un certain temps, mais on ne mesure pas la maturité spirituelle simplement par le nombre d'années de conversion ou depuis quand on a été baptisé. Notez aussi que l'auteur dit, vous devriez, avec tout ce temps, être des maîtres. Parfois, on dit des docteurs. Alors, il n'est pas en train de dire que vous devriez être des docteurs en théologie, en train d'enseigner à l'université, mais il est en train de dire, vous devriez être capable d'avoir suffisamment de connaissances pour en aider d'autres, pour aider ceux qui sont plus jeunes dans la foi. Et au lieu de répondre aux besoins des autres dans ce domaine, dans le domaine des choses élémentaires, vous avez vous-même besoin qu'on vous enseigne encore les choses élémentaires. Il dit, ça n'est pas normal. Il demeure inefficace, on pourrait dire ici, dans l'enseignement des autres. Ils peuvent rendre des services, comme on le voit au chapitre 6, verset 10, mais en ce qui concerne la compréhension de la parole et la transmission de la parole aux autres, ils sont inefficaces. Et donc notre texte suggère que tout chrétien converti, depuis plusieurs années, devrait être capable d'aider les jeunes dans la foi. Pas les jeunes en âge forcément, mais les plus jeunes dans la foi. On doit pouvoir expliquer le béaba à ceux qui sont plus jeunes dans la foi. Quand un jeune croyant vient à vous avec une question élémentaire, que lui dites-vous? Il ne faut pas qu'on lui dise, écoute, arrête de te prendre la tête, crois en Jésus et c'est tout. Mets ta confiance en lui et c'est tout, ça suffit. Qu'est-ce que t'as à te casser la tête sur qui est Dieu, machin, etc. Non. Si c'est ainsi qu'on répond, texte dit, on n'est pas efficace, on n'est pas mature. Il dit, vous devriez être des maîtres, vous devriez être ceux qui enseignent les autres. Et vous avez besoin qu'on vous enseigne. Non, enseignez-leur. Pouvons-nous aider les bébés spirituels? Et on a des bébés spirituels. Nos propres enfants dans nos foyers sont nos bébés spirituels, sont des bébés spirituels. Et si nous connaissons le Seigneur depuis plusieurs années, nous devons être capables de leur apporter des connaissances. Parce que nous n'avons pas été paresseux. Mais si nous avons été paresseux pendant le temps de notre vie chrétienne, nous n'avons aucun enseignement avec lequel nous pouvons les aider. Sommes-nous des bébés spirituels ou des gens qui ont grandi spirituellement et qui peuvent aider d'autres, qui sont capables de leur expliquer, pas des choses compliquées, mais le béaba de la foi chrétienne, les choses élémentaires. Qui est Dieu? Qu'est-ce que l'homme? Comment Dieu a-t-il créé le monde? Qu'est-ce que l'évangile? Voici une question parfois que je pose à des jeunes quand on commence les études sur le baptême. Qu'est-ce que l'évangile? Imaginez quelle réponse on donne. Parfois on ne sait pas, on est surpris de voir qu'on ne sait pas le dire, et on ne saura pas le dire à un inconverti non plus. On dit l'évangile c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit ce que c'est que l'évangile, elle explique clairement ce que c'est que l'évangile. On peut lire en Corinthiens chapitre 15, nous dit ce que c'est que l'évangile. En Romains chapitre 1, verset 16, nous dit ce que c'est que l'évangile. Donc on a ces réponses-là qu'on peut apporter. Et le texte suggère ici qu'on doit, quand on a passé du temps et des années dans la parole de Dieu, de manière efficace, on doit être un instrument pour pouvoir aider les autres. Dieu envoie Philippe, il parle avec l'eunuque éthiopien, et ça y est, il est parti. Il lui a expliqué le béaba de l'évangile. En plus, lui, c'est avec l'Ancien Testament, hein. D'accord, nous avons toute la révélation ici. Donc tout chrétien, tout croyant, depuis quelques années, devrait apprendre à le faire, mais devrait savoir qu'il doit être capable, s'il écoute avec profit la parole de Dieu, capable d'aider les autres. Et puis il dit ici au verset 13, il dit « Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la justice, car il est un enfant. » Il souligne bien ici le fait que, si même si on a passé du temps, si on en est encore au lait, on n'a pas de l'expérience dans la parole de Dieu. Et cette expérience manquant, on ne peut pas aider non plus les autres à progresser. Donc oui, chers frères et sœurs, ici, on doit savoir devenir des chrétiens matures, parce que l'exposition, même prolongée à l'évangile, demeure inefficace. Si nous en sommes encore à avoir besoin de lait, si nous sommes immatures. Et puis troisièmement, je voudrais souligner ceci, devenez chrétien mature, parce que la maturité spirituelle traduit une solide expérience de la parole et un discernement exercé. Regardez le verset 14, 13 et 14 même. Il dit ici au verset 13, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faite pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Il dit que celui qui en est encore au lait n'a pas l'expérience au sujet de ce qui est juste. Ça, c'est Bible en français courant qui le dit comme ceci. Il ne peut pas discuter de ce qui est juste, dit la traduction parole de vie. La semeur dit, il n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Donc, il y a une question d'expérience de ce qui est juste dans la vie de tous les jours qui est apportée quand on a une maturité spirituelle. Il manque d'expérience, celui qui est encore au lait, dans ce qui est juste, dans l'application de la parole à ce qui est juste dans la vie de tous les jours. Et quand la Bible dit, par exemple, « Au reste, frère, que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées », il dit, celui qui est un bébé spirituel, il ne sait pas ce que c'est qui est juste. Il n'a pas l'expérience de ce qui est juste. Parce que, au lieu d'apprendre de plus en plus, il est passif face à l'enseignement de la parole et il régresse, si bien qu'il ne fait pas de progrès et il ne peut pas savoir exactement ce qui est juste. Il n'a aucune expérience de la parole de la justice. Mais il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et on voit que l'auteur est en train de dire, c'est ce type d'homme-là qu'il faut être. Il faut être homme et femme, chrétienne, mature, dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il dit que ces personnes-là ont un désir d'assimiler toujours plus des vérités profondes de l'évangile. La nourriture est pour les hommes faits. Donc, il dit qu'elle leur est destinée, mais c'est une manière aussi de dire que c'est ce qu'ils désirent, cette nourriture solide. Et toutes vérités, donc, ne sont pas à la portée de tous. On voit cela ainsi. La Bible souligne d'une certaine manière ici que tout dépend du niveau de maturité. Le lait, c'est pour les bébés. La nourriture solide, la viande, c'est pour les adultes. Et spirituellement, il dit, ben, le béaba élémentaire des oracles de Dieu, c'est pour les bébés. Mais il dit ici, la nourriture solide spirituellement est pour les hommes qui ont fait des progrès et qui ont grandi en maturité. Et la Bible insiste sur cette maturité qui doit grandir. Éphésiens chapitre 4, vous vous rappelez, il dit que Dieu a donné les uns comme, dans l'église, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes. Pour quoi faire? Il dit pour le perfectionnement des saints, d'accord? Pour rendre les croyants capables, les faire grandir, les faire croître, etc. Et puis après, il ajoute, il dit même ainsi, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ. Il dit, ainsi nous ne serons plus emportés par des vents de doctrine, ils ne seront plus ballottés à droite et à gauche, ils atteindront une certaine maturité. Donc Dieu veut qu'il y ait que les croyants grandissent avec cette maturité. On commence à un niveau de connaissance bas, mais on doit grandir dans cette connaissance de Jésus-Christ. Et l'auteur, c'est ce qu'il dit aux Hébreux, il dit, voilà, je vais vous exposer des choses profondes, mais attendez, soyez matures. Ne soyez pas paresseux face à ce que l'on vous enseigne. Il dit ici que l'homme mature est celui qui a un jugement exercé par une pratique habituelle. Exercer ici, c'est le sens de faire de la gymnastique. C'est-à-dire, il ne reste pas dans son fauteuil. Personne ne se développe musculairement en restant dans son fauteuil. Moi, j'aurais bien aimé, je suis assis dans mon fauteuil, puis hop, hop, il y a les muscles qui poussent, les pectoraux qui arrivent, et tout. Mais ça ne passe pas comme ça. Il faut aller, je vois des gens qui sont à la salle, et puis ils sont là, ça transpire dans tous les sens, jour, d'accord, et puis ils font, et puis au bout d'un moment, mais les muscles se développent. Mais spirituellement, c'est pareil. On ne pousse pas des muscles spirituels par accident, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Il faut s'exposer à la parole de Dieu, il faut la lire, il faut se laisser pénétrer par cette parole, et puis il faut surtout s'y soumettre, ne pas être passif face à cette parole de Dieu. Et il dit que l'homme mature, il a un jugement qui est exercé parce qu'il a pris l'habitude de discerner ce qui est bien et ce qui est mal en rapport avec la parole de Dieu. Il reçoit la parole et il la met en pratique tous les jours de sa vie. Il développe un discernement. Il devient sage concernant le bien et le mal. D'accord ? Et il y a un exemple ici dans 1 Corinthiens. Regardez 1 Corinthiens au chapitre 3, où l'apôtre Paul parle aussi aux Corinthiens et où il met en évidence cette question de l'infantilisme spirituel, le fait d'être un bébé spirituel. Il dit au chapitre 3, 1 Corinthiens 3, et au verset 1, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants, voyez, en Christ. Je vous ai donné quoi? Du lait et non de la nourriture solide. Ce que l'auteur de Pitzebo dit, vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Vous voyez que l'état spirituel est un obstacle à la compréhension des vérités de la parole de Dieu. Et on va continuer, il dit, en effet, et voilà pourquoi il le dit, regardez sur quoi il se base pour le dire, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Il dit, vous êtes des bébés spirituels parce que vous avez des parties entre vous. Ça ne sert à rien de dire, oui, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que je suis au Seigneur. Il dit, si c'est comme ça que vous vous comportez, vous êtes en train de montrer que vous êtes charnel dans votre attitude et que vous ne pouvez pas supporter de la nourriture solide. Vous êtes des bébés. Donc, c'est comme à des bébés que j'écris, je vous donne du lait. On va reprendre les bases, parce qu'elles ne sont pas assimilées. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et à cause de quoi il dit ça? Parce que voilà, je vois comment vous vous comportez entre vous. Peu importe combien de fois on a lu la Bible, peu importe si vous avez lu tout l'Ancien Testament. Il dit, c'est pas ça le problème. Le problème est votre attitude montre qu'il n'y a pas de discernement. Vous n'êtes pas sage. Vous n'avez pas un jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et voilà, et vous faites, croyez que c'est bien d'avoir des parties. Moi, je suis de celui-ci, moi, je suis de celui-là. Il dit non. Il dit, vous montrez par là que vous êtes charnel. La maturité spirituelle traduit une solide expérience de la parole de Dieu et un discernement exercé pour faire les bons choix moraux. C'est toujours difficile de faire des bons choix moraux. Mais l'Écriture nous dit que ça demande de la maturité spirituelle. Les bébés spirituels n'ont pas ce discernement. Les adultes, oui, ils l'ont en comparaison. Alors je conclurai ainsi, chers frères et sœurs. Comment devenir des chrétiens matures? Comment devenir des chrétiens matures? Premièrement, pour devenir chrétien mature, il faut d'abord être chrétien. Pour devenir chrétien mature, il faut d'abord être chrétien. Il faut venir à Christ dans la foi et dans la repentance. Et c'est aussi l'appel que fait l'Épître aux Hébreux, hein, dans l'auteur dans cette Épître aux Hébreux. Cette Épître nous dit que Jésus est l'auteur d'un salut éternel. On l'a vu au chapitre 5, au verset 9, je crois. Jésus est l'auteur... Regardez encore au chapitre 5, verset 9. « Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » C'est ce qu'il nous dit. « Pour ceux qui lui obéissent. » Elle nous dit aussi que pour ceux qui ne lui obéissent pas, pour ceux qui le rejettent, regardez Hébreux 10, il dit qu'il n'y a plus de sacrifice, parce qu'il est le sacrifice parfait. Si vous le rejetez, dit-il, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais il y a l'attente d'un terrible jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreux chapitre 10, regardez Hébreux chapitre 10, et nous allons lire ces deux versets, verset 26 et verset 27. Il dit, car si nous péchons, Hébreux 10, verset 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, et qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Il dit que rejeter Christ, ne pas venir à lui dans la foi et la repentance, c'est fouler aux pieds le Fils de Dieu, tenir pour profane le sang de Christ et rejeter, outrager l'Esprit de la grâce. Il dit qu'il y a un jugement terrible qui attend ceux qui rejettent Christ. Il n'a pas dit ceux qui courent dans la rue, qui blasphèment contre Christ. Ceux qui simplement ne sont pas venus à lui dans la foi et dans la repentance. Et si ce matin, vous ne l'avez pas fait, eh bien, il dit, voilà, c'est ce qui vous attend. C'est ce qui vous attend. Mais de notre côté, il dit trois fois ou quatre fois dans cette épître, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez à lui, à Jésus-Christ, dans une foi sincère et une repentance sincère. Pour devenir chrétien mature, il faut d'abord être chrétien. Alors serez-vous paresseux à écouter ce matin? Serez-vous nonchalant, mou, sans énergie, dans une apathie face à la parole de Dieu? Où viendrez-vous à lui? Dans la foi et dans la repentance. Deuxièmement, pour devenir chrétien mature, il faut obéir à la vérité de la parole au fur et à mesure que nous la recevons. Pour devenir un chrétien mature, il faut obéir à la vérité de la parole de Dieu au fur et à mesure. Les Hébreux étaient devenus paresseux à écouter. Vous voyez, c'est un cycle, mauvais cycle. Hein? On devient paresseux, et plus on devient paresseux, plus on est paresseux. Hein? Ils n'ont pas travaillé avec ce qu'ils ont reçu. Ils n'ont pas fait vivre cette parole qu'ils ont reçue. Ils n'ont pas ajouté la foi. Hébreux 4, verset 2 le dit très clairement. Il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Quand on écoute, on écoute, on écoute et on ne met jamais en pratique, on ne place jamais sa confiance dans ce qu'on écoute, on est en danger d'immaturité spirituelle et d'éloignement et de dérive. Et donc pour devenir un chrétien mature, il faut obéir à la vérité au fur et à mesure qu'on la reçoit. Et avec le temps, comme le texte dit, eh bien, on devient des chrétiens de plus en plus mûrs, capables d'aider les autres. Troisièmement, pour devenir des chrétiens matures, il faut désirer la nourriture solide. On dit, oh, moi, quand c'est compliqué, on commence à parler de retour de Jésus-Christ, d'eschatologie, tout ça, non. Donnez-moi vraiment les choses simples. Hein, qui pont. J'ai besoin d'un petit peu de nourriture là pour la semaine, dites-moi quelque chose qui va me faire du bien pour la semaine. J'ai pas envie de me prendre la tête, à me casser, à réfléchir à toutes ces choses. Non, il faut désirer de la nourriture de plus en plus solide. C'est ce que l'auteur dit ici. Il dit, la nourriture solide, elle est pour les hommes matures et Dieu veut des hommes matures. Il donne sa parole pour que nous devenions des hommes et des femmes matures. Donc, ceux-là doivent désirer la maturité spirituelle. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 2 et 3, l'apôtre Pierre dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Alors il ne dit pas qu'il faut revenir au lait, c'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Hein. Son accent n'est pas mis, le lait là, c'est pas pour dire là, c'est le béaba, le lait c'est pour dire que c'est la nourriture essentielle dans ce contexte-là. Et surtout, son accent n'est pas mis sur le lait lui-même, mais il voulait parler ici de la parole, le lait spirituel et pur, c'est la parole de Dieu. Son accent est mis sur le fait de désirer comme des enfants nouveau-nés. Alors, si vous avez déjà observé des nouveau-nés, si vous avez des nouveau-nés chez vous, il y a une chose, quand ils crient et qu'ils ont faim, vous savez qu'ils ont faim. Et quand ils ont faim, c'est pas la peine de leur présenter un jouet qui est rouge, bleu, jaune, etc. Ça sert à rien du tout. Tout ce qu'ils veulent, leur seul désir, c'est le lait. D'accord ? Donc, il faut leur donner du lait. Vous pouvez leur présenter un beau samosa, bien croustillant, et leur dire, même si c'est un bébé indien, il va pas regarder ça. Il veut le lait. Vous pouvez lui dire, mais voilà un billet de 100 euros, tu pourras t'acheter autant de litres de lait que tu veux. Il veut le lait. Votre billet, il peut le déchirer, ça ne sert c'est rien. Il veut du lait. Et l'apôtre Pierre dit, c'est comme ça qu'il faut désirer la parole de Dieu. Dire, ce que je veux, moi, c'est connaître davantage Jésus. Comme l'apôtre Paul disait, de te connaître. Connaître la puissance de ta résurrection. La conformité à tes souffrances. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, moi, j'ai regardé tout comme de la boue à cause de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et donc, il dit, c'est ainsi qu'il faut animer. Pour être animé, pour devenir un chrétien mature, il faut désirer vraiment les choses solides de la parole de Dieu. Si on ne les désire pas, ben on va pas les désirer. Si on ne les désire pas, on va devenir de plus en plus paresseux. Psaume 119, 40 dit « Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. » Et puis, au verset 131, il dit « J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. » Il faut prier Dieu que cette disposition-là soit en nous, qu'on ait un véritable désir de connaître davantage des choses de plus en plus profondes de sa parole. Et puis, dernier point que je vais souligner ici, c'est que pour devenir des chrétiens matures, il faut réclamer l'aide de Dieu dans la prière. Parce que ce sont des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Réclamez l'aide de Dieu pour venir à lui dans la foi et la repentance. Réclamez l'aide de Dieu pour désirer vraiment sa parole comme les nouveau-nés. Réclamez l'aide de Dieu pour obéir à la vérité chaque fois qu'elle nous est annoncée, étape après étape, ici. Et on le voit, ça, ce que je dis dans le chapitre 6, on ne va pas développer le chapitre 6 maintenant, mais au verset 3, l'auteur termine en disant, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, nous allons abandonner les éléments, verset 1, chapitre 6, les éléments de la parole de Christ, c'est-à-dire le béaba, ici, qui consiste pour lui ici dans le fondement du renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, etc. Il parle à des Juifs, on pourrait voir une autre fois ce que ça veut dire. Et il dit, et nous allons tendre vers ce qui est parfait. Regardez verset 1, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Dieu, de Christ, et tendons à ce qui est parfait. C'est-à-dire, il faut ces choses, mais ne restons pas que là, allons plus loin. Et pour le faire, nous avons besoin de compter sur Dieu. Nous le ferons si Dieu le permet. Il veut dire que nous allons demander à Dieu. Dieu veut toujours que l'on progresse. Donc Dieu permettra que l'on progresse. C'est une manière de dire qu'on va compter sur Dieu dans cela. Devenons des chrétiens matures. Que le Seigneur nous aide par son esprit et par sa parole. Prions. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ces avertissements qui nous réveillent, qui nous montrent que nous pouvons avoir une attitude nonchalante face à ce que nous entendons de ta parole. Pardonne-nous, nous t'en prions, et donne-nous vraiment un cœur aimant. Donne-nous vraiment de ne pas nous contenter de petites lectures, de deux ou trois versets ici ou là dans nos journées, mais de te rechercher vraiment à travers ta parole. Donne-nous un appétit, un désir spirituel, une faim, une soif pour ta parole. Que nous soyons comme le psalmiste, désireux et avide de connaître tes ordonnances. Seigneur, que par ta parole nous puissions croître. Que nous soyons ça puisse nous amener à une plus grande communion avec toi, mais aussi que nous soyons une aide pour ceux que tu places autour de nous aussi. Seigneur Dieu, nous te prions que tu nous remplisses de cet esprit, que tu touches aussi le cœur de ceux qui, ici ce matin, ne te connaissent pas, que tu les attires à toi, que cette parole puissante et efficace puisse, et que ton esprit puisse agir afin qu'ils puissent venir à toi dans la soumission et dans la foi. Nous te demandons cela en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.